Tournons dans le livre de Galates, l'Épître aux Galates, le chapitre 1, les versets 1 à 5 que nous allons lire. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, qui est esprit et vérité. Seigneur, ta parole qui parle de toi, Seigneur, qui te met en évidence, Seigneur notre Dieu, qui nous parle de la personne du Seigneur Jésus-Christ, sur ses œuvres, sur ce qu'il a fait, Seigneur, sur sa personne. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous accorder ton Esprit Saint, Seigneur, ce matin, afin que nous puissions avoir toute cette attention nécessaire, Seigneur Dieu, et que nous ne soyons pas distraits, éparpillés dans tous les sens, Seigneur, mais que nous puissions être bien centrés sur ta parole, Seigneur, afin qu'on puisse en retirer le maximum dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un a en quelque sorte comparé la Bible à une lettre d'amour de Dieu. Lorsque vous regardez à votre Bible et que vous l'étudiez de plus près, vous trouverez que la Bible contient plusieurs lettres. C'est le cas particulièrement lorsque on tourne dans le Nouveau Testament. 21 des 27 épîtres du Nouveau Testament sont des lettres. Vous ne pouvez pas réellement comprendre la foi chrétienne à moins que vous ne compreniez ces lettres. Donc, depuis un bout de temps, nous examinons une de ces lettres. Elle n'est pas particulièrement grande. Il y a seulement 149 versets dans 6 chapitres. Mais vous avez certainement déjà entendu dire que les grandes choses sont contenues dans les petits paquets. Donc, cette lettre est une grande lettre dans un petit paquet. Avant d'aller plus loin, nous allons regarder à son introduction ou ce qui est appelé sa salutation. C'est toujours à propos que nous nous posions quelques questions de base lorsque nous abordons un livre comme celui des Galates. Qui l'a écrite? À qui s'adresse-t-elle? Et pourquoi a-t-elle été écrite? Et la salutation ou l'introduction nous donne en quelque sorte une réponse à ces questions. Au verset 1, nous apprenons que Paul, l'apôtre, a écrit cette lettre. C'était un écrivain prolifique. Il aimait communiquer, il aimait écrire des lettres. Il aimait voir les gens en face, face à face, de visu. Mais lorsqu'il ne pouvait les voir, il écrivait des lettres. Il était un grand communicateur. Nous avons aussi, par l'introduction ou la salutation, nous savons aussi par l'introduction ou la salutation qu'elle était écrite aux églises de la Galatie. Nous apprenons aussi par cette salutation qu'elle était écrite pour un but et nous allons entrer dans ce but pratique. Paul a écrit cette lettre emphatiquement. Quelqu'un a mentionné que jamais Paul n'a argumenté avec tant d'adresse, d'habileté, tant de perspicacité, de mordant, de gravité, tant de puissance convaincante. Dans aucun autre endroit révèle-t-il tant d'indignation, tant de dédain, de mépris, mais aussi tant d'affection, tant de dévotion à Christ. Comme il a dit dans d'autres occasions, c'est une lettre explosive. Elle n'a pas été écrite avec un sourire. Paul est bouleversé. Il est en colère. Ce n'est pas la colère typique que nous expérimentons souvent, des soubresauts d'humeur. Notre colère est souvent une colère charnelle, une colère orgueilleuse. La colère de Paul est une sainte colère, c'est une colère juste, c'est une colère que nous pouvons trouver seulement dans le cœur de Dieu. Pourquoi est-il en colère? Eh bien, pour le dire simplement, le grand évangile de Jésus-Christ a été traité vulgairement. Il y avait des gens dans l'Église qui tordaient l'évangile, le reformulaient et y ajoutaient des choses. Et Paul, en essence, dit aux Galates et à ceux qui avaient infiltré les églises en Galatie, « Laissez-les, n'y touchez pas, enlevez vos empreintes véreuses de l'évangile de Jésus-Christ. » Avant que nous entendions ces fortes réprimandes, parce que nous les entendrons, il apporte la plus forte réprimande trouvée dans le Nouveau Testament sur ceux qui déforment l'évangile. Il leur dit qu'ils soient anathème. Mais avant que nous entendions ces fortes réprimandes, vous avez cette salutation dans le verset 1 à 5. Vous avez la prière au verset 3. Ensuite, vous avez l'introduction en termes de qui elle est écrite. Et au verset 4, vous avez cet énoncé qui capte bien l'Évangile. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au siècle présent, au siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, notre Père. Et ensuite, vous avez au verset 5, vous avez cette doxologie, et c'est ce que nous avons chanté d'ailleurs, concernant la gloire de Dieu, « À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Alors, c'est ici que nous allons porter notre attention ce matin. Nous allons prendre en quelque sorte notre microscope et examiner le verset 5 de Galates 1. On va aborder ce passage sous trois perspectives qui vont nous guider. La première perspective, c'est le qui de la louange ou de la doxologie, le quoi de la louange ou de la doxologie, et le pourquoi de la louange ou de la doxologie. Donc, notre premier point, le qui de la louange ou de la doxologie. Toutes les lettres de Paul commencent à peu près de la même manière. Elle commence avec une description brève de l'auteur, comme nous l'avons déjà vu, les récipiendaires, et ensuite vous avez la salutation. Et cette lettre aux Galates suit ce modèle de base. Cependant, si vous examinez la lettre aux Galates de plus près, et si vous en faites une comparaison avec les autres lettres écrites par Paul, vous verriez quelques différences, entre autres. Il n'y a pas de recommandation, d'éloge, d'appréciation, de reconnaissance et d'appréciation pour les Galates. Habituellement, Paul dit quelque chose de positif, un sujet d'éloge. Il encourage ceux à qui il écrit. Il n'était pas celui qui flatte, mais il était quelqu'un qui encourageait. Il aime à recommander ses frères et sœurs en Christ. Il le fait plutôt d'une manière conséquente. Envers les Colossiens, il les éloge comme étant saints et des frères fidèles. Envers les Philippiens, il les encourage en disant qu'ils sont participants à l'Évangile. Il mentionnera à ses bébés dans la foi qui croissaient, à ses Thessaloniciens, il leur écrit pour les encourager parce qu'ils servaient Christ au milieu de profondes souffrances. Mais il leur dira qu'ils ont reçu la parole avec beaucoup d'affliction et de joie. Et ainsi, ils sont devenus des exemples pour tous, pour tous les Macédoniens. Il écrit aux Corinthiens qui avaient toutes sortes de problèmes. Paul les appelle saints. Ainsi, vous voyez, Paul aime à encourager les gens. Il aime recommander lorsqu'il le peut, mais pas ici. Les éloges humains sont visiblement absents. Il est aussi silencieux qu'une souris, pas le moindre petit cri dirigé vers les Galates. Mais il rugira comme un lion lorsque vient le temps de les réprimander et de les avertir, à partir du verset 7. Vous avez une série de réprimandes et d'avertissements. Il y a un pourquoi. Les Galates sont en danger de tout perdre.
Si les choses ne changent pas rapidement, cette Église et toutes les églises dans la galaxie du Sud vont descendre et sombrer dans l'apostasie. Il est difficile d'imaginer une situation plus hasardeuse, plus périlleuse. L'apostolat de Paul aussi est attaqué. Les Galates flirtent avec une hérésie damnable. Les Galates ont commencé à abandonner l'Évangile. Et sans aucun doute, l'apôtre est terriblement bouleversé, troublé avec l'état de cette affaire dans toutes les églises de la Galatie du Sud. Mais remarquez, il ne permet pas la situation terrible, négative de Galatie, de l'église de la Galatie, pour qu'il soit dépassé dans son âme, paralysé dans son âme. Ainsi, il louange Dieu. Les louanges rebondissent sur les murs. À qui soit la gloire? Il est difficile, lorsque nous regardons à ce verset 5, de savoir exactement sur qui il met l'accent ou qui est l'objet de sa louange. Et si nous regardons au verset 4, il nous est éclairé un peu là-dessus. Nous avons deux antécédents. On a Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. La question est, est-ce qu'il prie Dieu le Père ou Dieu le Fils? Il n'est pas certain que nous ayons à choisir. Dans le verset 1 et le verset 3, Paul a démarqué les deux, Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Le théologien B.B. Warfield a dit, « C'est ainsi que nous devons comprendre le Dieu des chrétiens. Nous adorons un Dieu trinitaire. » Si vous notez, si vous remarquez dans le verset 1, il met l'accent sur Jésus-Christ et ensuite sur Dieu le Père. Mais dans le verset 3, il fait l'inverse. Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Il échange, il permute les deux noms sans cligner des yeux. Les deux noms sont liés ensemble avec une seule maille, une petite conjonction, et, et. Au verset 1, Jésus-Christ est par Dieu le Père. Et au verset 3, Dieu notre Père est Dieu Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il demeure deux personnes. Il y a ici une égalité absolue. L'un n'est pas plus grand que l'autre en termes de louange. Ainsi, à qui devons-nous rendre la louange? Nous apportons la louange à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Un des premiers credos de l'Église chrétienne vers les années, à peu près vers le 6e siècle, est appelé le credo d'Athanase. Athanase était un grand champion de la vérité, de l'orthodoxie chrétienne. La guerre de la vérité qu'il menait était sur « Qui est Christ ?» Et le tout en est venu à une lettre grecque. Athanase disait « Non au mot « homousios » ou « de substance similaire » et il disait « Oui au mot « homos »« homosousios » de même substance, Donc, un des mots grecs disait homousios, qui est substance similaire, et l'autre, homousios, de même substance. On pourrait dire qu'il était à quelque part pointilleux, titilleux un peu sur les bords, mais non. Ce qui était en cause, c'était la divinité de Christ. Et voici le credo d'Athanase, ce qui se disait dans le credo d'Athanase, en tout cas, le commencement. C'est dit, comme est le Père, tel est le Fils. Le mot tel, T-E-L, indique l'égalité, la même égalité dans la gloire et co-égal dans la majesté. Nous pouvons, en tant que chrétiens, adorer Dieu et pouvons faire une distinction en termes de divinité. Nous adorons Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais nous pouvons adorer Dieu le Fils sans un tiraillement de conscience, pensant que nous adorons de quelque façon, pensant que nous avons de quelque façon traversé la ligne et sommes maintenant coupables d'idolâtrie. Dieu le Fils peut recevoir notre adoration et notre louange autant que Dieu le Père. À qui soit la gloire. Cela explique pourquoi les anges l'adorent. On a vu dans Hébreux, lorsqu'on a étudié dans Hébreux, au début d'Hébreux, ils nous disent pourquoi les anges l'adorent. Cela explique pourquoi, lorsque nous avons un coup d'œil sur le ciel même, nous entendons tous ses habitants adorant Jésus-Christ. Dans Apocalypse, si vous jetez un regard dans Apocalypse, le Père et le Fils sont l'objet de notre louange et de notre adoration. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Donc, le qui de la doxologie ou de la louange. Notre deuxième point, le quoi ou l'essence de cette louange ou de cette doxologie. Le mot doxologie vient du grec doxa, qui signifie gloire, et logos, qui signifie mot ou parole. Un mot, une parole de gloire, ou un mot ou une parole concernant la gloire. Paul aussi, au verset 5, utilise le mot, ce mot gloire, doxa. À qui soit doxa, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Mais qu'est-ce que la gloire? Eh bien, c'est pas tout à fait facile à expliquer. Quelqu'un a dit, c'est un peu comme la beauté. Essayez de définir la beauté. Il y a comme ça des concepts qui sont difficiles à expliquer. Ils défient réellement les explications et les définitions. Mais voici une définition relativement simple. La gloire de Dieu est la beauté de toutes les multiples facettes de sa perfection, de ses attributs. C'est un mot pour décrire Dieu. Nous pouvons parler de la gloire de Dieu comme quelque chose que Dieu a mis en évidence, en manifestation, en exposition. Dieu aime à mettre en vitrine sa gloire, ses attributs, à les démontrer. Dieu aime à se mettre lui-même en exposition. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, nous voyons illustrer graphiquement ce principe. Dieu se place lui-même en exposition. Nous y voyons Moïse faisant cette requête audacieuse dans Exode 33, verset 18. « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu répond « Nous devrions nous rappeler que Moïse n'était pas un blanc-bec, n'était pas le dernier venu lorsqu'il a fait cette requête. Moïse n'était pas un jeune bébé en Christ, un jeune croyant. Il a vu les 10 plaies d'Égypte, ces grands miracles qui proclamaient la gloire de Dieu. Moïse avait une place de choix lorsque la mer Rouge s'est séparée. Il a vu Dieu pourvoir pour la manne du ciel dans ce désert pendant 40 ans. Il a vu jaillir l'eau du rocher. Il a été sur cette montagne et a eu une communion face à face avec Dieu pendant 40 jours. Il a vu la gloire de Dieu à maintes occasions. Mais Moïse en veut plus. Moïse était, comme quelqu'un l'a dit, un homme intoxiqué de Dieu. Il était un homme qui n'en avait pas assez de Dieu. Il était un homme qui avait faim et soif de Dieu. Ainsi, il fait cette requête audacieuse. « Fais-moi voir ta gloire. » Spurgeon, dans son commentaire sur ce passage, dit « C'est la plus grande requête qu'un homme n'ait jamais demandée. » Moïse n'était pas ce genre d'homme timide. « Fais-moi voir ta gloire, » dit-il. Et Spurgeon continue de dire certainement qu'après qu'il eut dit cela, ses cheveux ont dû s'être dressés bien raides sur la tête. Quelqu'un racontait que au temps de Noël, c'était une famille, il y avait deux jumeaux, puis il y avait un frère qui était plus grand. Puis l'aîné faisait des requêtes à ses parents pour leurs cadeaux. C'était dans leur début d'adolescence. Et à un moment donné, il demande un canot. Alors, ces deux jumeaux disent, jamais qu'il va obtenir ça, jamais, jamais. Finalement, il a eu son canot. Donc, l'année suivante, le même, il demande une motoneige. Il était audacieux, fronceur, fendant même, demande une motoneige. Puis là, il n'a pas eu la motoneige, mais il y a eu une réplique de motoneige, une espèce de jouet, une réplique. Okay. Mais ça laisse voir que Moïse était un peu de cette trempe-là. Il osait demander des grandes choses. Fais-moi voir ta gloire. Je veux en voir plus de toi. Je veux te connaître plus. C'était sa grande passion et sa grande ambition dans la vie. Et n'est-ce pas que Dieu a merveilleusement répondu à Moïse? Nous le voyons dans le chapitre 34 au verset 6. L'Éternel passa devant lui en proclamant. Il y a cette démonstration. Dieu lui donne un aperçu de lui-même. Et nous pouvons continuer de lire au verset 6 et 7. L'Éternel Dieu, compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Quelle vue glorieuse! Quelle révélation renversante! Quelle révélation à vous couper le souffle! Une suite de la révélation des attributs et des perfections de Dieu est étalée devant Moïse. Une théophanie. Quelque chose comme une manifestation visible que Dieu a donnée à Moïse. Une exposition de sa gloire. Une manifestation et une proclamation glorieuse de sa personne. Et lorsqu'un homme vient si près de Dieu, il n'est jamais plus le même. Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner, nous a-t-il dit un petit peu plus loin. Moïse est descendu de cette expérience sur la montagne et sa face brillait. Il a regardé la face de Dieu, certainement non pas littéralement, mais il a eu ce contact avec Dieu et ce fut tout un impact. C'est comme si quelqu'un regardait le soleil en pleine face et qu'il attrape tout un coup de soleil. Et ce qui est si saisissant, si émouvant, est que nous pouvons avoir une meilleure vue de sa gloire, de la gloire de Dieu, en tant que croyant de la nouvelle alliance. Parce que lorsque nous tournons vers le Nouveau Testament, c'est ce qui ressort haut et fort que la gloire de Dieu brille avec plus d'éclat et dans toute sa clarté dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. La gloire divine est liée avec la révélation de Jésus. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Dans l'Évangile de Jean, cet Évangile, au premier chapitre de l'Évangile de Jean, commence comme la Genèse au chapitre 1, au commencement. L'Évangile de Jean s'ouvre en nous donnant une vue de Jésus dans son état de pré-incarnation. Avant qu'il n'y ait une terre, une étoile dans les cieux, avant que Dieu ait soufflé sa parole à existence, Jésus, il n'était pas appelé Jésus à ce moment-là, mais il était là. Christ, la deuxième personne de la Trinité, était là. Il a toujours été là. Il n'y a jamais eu un temps où il n'était pas là. Il est toujours là et il sera toujours d'éternité en éternité. Mais ici, l'apôtre Jean ne l'appelle pas Jésus tout de suite. Il se réfère à lui comme le Logos, doxologie, Logos, la parole. Il nous ramène au-delà de Bethléem. Au-delà, c'est avant Bethléem. Au commencement était la parole. Nous saisissons un aperçu de sa personne glorieuse. La parole dans son existence éternelle. Et Jean nous laisse voir combien il est grand. Il était au commencement. Il a fait toutes choses, nous dit Jean, au verset 3. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. L'apôtre Jean a une position à hauteur vertigineuse de toute éternité. Regardant à celui qui s'appelle le Logos, la parole. Ensuite, il nous ramène sur terre, dans Jean 1, 14. La première chose que Jean nous dit concernant cette incarnation humaine en chair est que nous avons contemplé sa gloire. Au verset 14, « La parole a été faite chair et a habité ou a planté sa tente parmi nous, a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Le Dieu que Moïse a vu de si près est venu sur terre. Et Jean nous dit que nous avons contemplé sa gloire tout comme Moïse a vu sa gloire. Nous avons contemplé le Dieu majestueux. Nous l'avons vu faire des choses étonnantes. Il a pris un corps de chair. Ceci est renversant. Un Dieu suprême, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, qui vient vers nous et qui prend un corps de chair, un corps de même nature que nous. Il s'est mêlé avec l'humanité pécheresse. Nous avons vu sa beauté, les facettes de ses attributs, de ses perfections, de sa gloire, sa fidélité, sa puissance, sa tendresse, sa gentillesse, son amour, sa miséricorde. Nous avons vu sa colère, rappelons-nous dans lorsqu'il chassait les vendeurs du temple. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre commence l'Épître un peu de la même manière que Jean commence son Évangile, en mettant l'accent, le focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, il utilise ce grand mot « gloire » au verset 3, en parlant de celui qui a créé le monde, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire. Le mot « gloire » est souvent associé avec la lumière, avec la clarté, avec l'éclat, la brillance. Il dégage la gloire de Dieu. Elle est mise en évidence. Elle éclate lorsqu'il guérit les lépreux, lorsqu'il marche sur les eaux, lorsqu'il chasse les démons. Nous avons contemplé sa gloire. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, il y avait cette radiation, ce rayonnement de la beauté et de la majesté de Dieu. Jésus lui-même sait qu'il est sur terre pour glorifier le Père. Il sait qu'il est sur terre pour aller à la croix. Et à la croix, Dieu sera glorifié. C'est pourquoi vous entendez Jésus dire dans cette prière sacerdotale dans Jean 17, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » Vous voyez, la gloire de Dieu brille dans la personne, mais aussi dans l'œuvre de Jésus-Christ. La gloire de Dieu brille à la croix. La gloire de Dieu brille dans la création, n'est-ce pas? Dans Psaume 19, 1, il nous est dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Dieu a fait chaque étoile, chaque fleur, chaque oiseau, chaque animal. Il a fait en sorte que chacun expose quelque chose de la création de Dieu, comme un évangéliste qui proclame la vérité, qui est Dieu. La création émet chaque jour. Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est sage. Jésus-Christ et sa croix, c'est là où la gloire de Dieu brille de tous ses feux, de tous ses éclats et dans toute sa clarté. Non pas dans la création, mais dans la rédemption. C'est pourquoi Jean nous dit dans 1 Jean, au chapitre 4, au verset 9, « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Et le verset 10, « Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire, propitiatoire pour nos péchés. » Nous voyons ça aussi dans Romains 3, 26. La gloire de son amour, la gloire de sa justice, la gloire de sa colère, de son courroux, brille à la croix. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent. Gardiner Spring, dans son livre « The Attraction of the Cross », « L'attraction de la croix », dit ceci, « Nulle part ailleurs nous est révélé dans sa plénitude le vrai caractère de Dieu comme à la croix. » L'œuvre de la création, dans toute sa beauté et sa magnificence, ne fait pas de telles découvertes. Les révélations faites à Moïse et aux prophètes étaient inférieures à celles faites par Jésus-Christ. Dieu a parlé à partir d'épaisses nuées. L'état de sa gloire était dissimulé, caché par le voile qui séparait le lieu très saint. Ce n'est que lorsque Jésus s'est écrié « Tout est accompli » et qu'il ait remis son esprit à son Père, que le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas et que sa sainteté qui est sans tache, la justice qui est inflexible, sa grâce qui est infinie, sa sagesse mystérieuse et la souveraineté et la bonté sont apparues dans une telle forme que les hommes pécheurs puissent les regarder et vivre. Voici la meilleure vue de la gloire divine lorsque nous considérons les merveilles de la croix sur laquelle le prince de la gloire est mort. Et ce que Paul a contemplé et médité ici dans l'Épître aux Galates, avant qu'il ne donne cette explosion de louange ou de sa doxologie au verset 4, ne met-il pas l'accent sur Christ et l'œuvre de Christ en notre faveur, lorsqu'il dit au verset 4, « Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin que de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père. » Vous voyez, Paul, lorsqu'il voit la croix, il voit Christ et ce sacrifice, cette grande œuvre de rédemption, et il ne peut se retenir et louer Dieu en vue de cela, à qui soit la gloire. Il ne peut demeurer silencieux. Le qui de la doxologie, Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ. Le quoi de la doxologie, comme nous avons vu, c'est l'accent sur Dieu lui-même, sa glorieuse manifestation, le déploiement de ses attributs et de ses perfections. Et troisièmement, le pourquoi de la louange ou de la doxologie. À qui soit la gloire? Pourquoi Paul place-t-il sa doxologie à l'entrée de cette épître? Vous ne trouvez cela dans aucune autre de ses épîtres. Parfois, lorsque vous allez dans une maison autre que la vôtre, Puis vous allez dans des pièces. Des fois, vous voyez des posters. Souvent, c'est dans des chambres de jeunes. Et on voit des posters d'athlètes, de sportifs et, ou d'équipes de sportifs. Et ils aiment bien mettre cela en évidence. Et ça indique, en quelque sorte, quelque chose qu'une personne aime. Ça indique aussi souvent leur attitude, leur disposition envers cette personne ou cette équipe. Et Paul place de grandes affiches, de grands posters sur le mur avant de Galates 1. Un grand portrait de Dieu. Dieu et Jésus-Christ. Vous voyez, comme Moïse, Paul était un homme intoxiqué de Dieu. Il aime Dieu et il veut que Dieu soit glorifié. La gloire de Dieu est très importante pour l'apôtre Paul, parce qu'il sait que c'est très important pour Dieu. Dieu aime sa gloire. Dieu prend plaisir dans sa gloire. Il nous est dit dans Ésaïe 48, au verset 11, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » C'est Dieu lui-même qui parle. « Pas un gramme, pas une molécule, n'en volez pas à Dieu. » C'est pourquoi il nous a créés. Pour glorifier son nom, pour se glorifier. C'est pourquoi il nous a sauvés pour sa gloire. Mais voici le problème ici dans l'église de la Galatie. Ils essaient de changer l'évangile. Ils avaient un autre évangile. Ce que Paul dira, qu'il n'y a pas d'autre évangile, parce qu'il n'y a qu'un évangile. Mais ils ajoutaient un petit peu plus, un petit rituel, un petit rite de circoncision. Ce n'est pas une affaire si grave, mais Paul dit, c'est une affaire grave. C'est voler à Dieu. Vous volez la gloire à Dieu. Quoi que vous ajoutiez à l'Évangile ou à l'œuvre de Christ, vous volez à Dieu. Ce que Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Jésus est mort, Jésus est allé à la croix pour sauver des pécheurs. Mais il y a quelque chose de plus grand, de plus extrême, un but plus grand que le salut des pécheurs. Est-ce que vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi les gens peuvent aller en enfer et Dieu sera aussi glorifié, même là. Lorsque vous ajoutez quelque chose à la grâce souveraine de l'Évangile de Christ, vous avez volé de la gloire à Dieu. La gloire de Dieu ne vous appartient pas, ni ne m'appartient. Avant que Paul n'amène ses croyants professants de Galates à une exhortation et à une remontrance, avant qu'il ne lance ses missiles de malédiction et d'anathème parce qu'il prêchait un autre évangile, il leur laisse savoir que l'Évangile de Christ est un Évangile qui glorifie Dieu. C'est le sens de tout cela, finalement, en fin de compte. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix, finalement, pour donner la gloire à Dieu. Martin Luther, dans la Réforme, était préoccupé concernant la gloire de Dieu. Vous avez les cinq solas de la Réforme. L'Écriture seule, par la foi seule, par Christ seul, par la grâce seule, et le cinquième, pour la gloire de Dieu seul. Cela lui appartient et à personne d'autre. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose que cette génération de croyants ait besoin d'intégrer dans le cœur et l'esprit, c'est la gloire de Dieu. Nous nageons dans un monde anthropocentrique, un grand mot, qui veut dire centré sur l'homme. Me, myself and I. Qu'en est-il de moi? Rendez-moi heureux, soyons heureux. Moi, moi, moi. On pourrait appeler ça le moi-même-isme. Je viens de l'inventer, le moi-même-isme. Le moi-même-isme déborde et florissant. nous pouvons aider et certainement que nous pouvons être une influence, et ce de plusieurs façons. Nous vivons dans une culture de scission. Scission, là, c'est division, séparation, de lutte, de tous les temps. Cela a modifié radicalement l'adoration. Les églises ont fléchi devant les idoles du moi-même-isme, de la consommation, du consommationnisme. L'adoration est devenue grossièreté dans le sens d'orienter sur le moi-même-isme, centré sur l'homme. La gloire de Dieu dit « Vous placez Dieu en premier, non pas vous-même. » Son honneur, sa volonté, son nom viennent en premier. Le christianisme ne commence pas et ne finit pas par vous ou par moi. Tout est à propos de lui. Détournez les yeux de vous-même. Ayez les yeux fixés sur lui. C'est ce qui nous est dit dans Hébreux 12, 1 et 2. Ayez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur de notre foi. Nous avons besoin de se prêcher cela à nous-mêmes chaque jour parce que nous avons des cœurs qui gravitent vers nous, centrés sur nous-mêmes si facilement. Nous avons des yeux qui regardent intérieurement si facilement et même constamment, qui sont inclinés vers nous, sur nous et non pas en direction de Dieu. À lui soit la gloire. Dieu aime sa gloire. John Piper cite, il dit, « Dieu est la personne la plus centrée sur Dieu dans tout l'univers. Et parce que sa gloire est liée avec son Fils et sa croix et son Évangile, c'est ce qui prend l'autorité sur toute autre chose. » Paul nous dira dans 1 Corinthiens 1, 23, nous prêchons Christ crucifié. Cela explique aussi pourquoi Paul nous dit dans Philippiens 3, 8 à 10, et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. Il nous dit aussi dans Galates 2, 20, « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cela explique pourquoi les missionnaires laissent tout derrière. Cela explique pourquoi ils peuvent quitter un père, une mère, un foyer, tout le confort et toute la sécurité d'une société influente. À lui soit la gloire. Cela explique pourquoi les croyants ont accepté d'être dévorés par les lions, brûlés sur des bûchers, emprisonnés pour le reste de leur vie, encore aujourd'hui. À lui soit la gloire. Cela explique pourquoi des croyants donnent leurs dîmes et leurs offrandes. À lui soit la gloire. Cela explique pourquoi nous pouvons prendre un café, nous pouvons changer un pneu à moins 40 sur notre auto en plein hiver. Parce que quoi que nous fassions, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Revenant à l'Évangile, parce que c'était le souci des Galates, nous avons besoin d'être assurés que l'Évangile soit annoncé et porté à ce monde perdu. Que cet Évangile soit un Évangile qui glorifie Dieu. Un Évangile par la foi seule. Un Évangile, le seul Évangile qui peut glorifier Dieu. Un évangile par la grâce seule, un évangile par Christ seul, un évangile qui déclare sans excuse son œuvre, non pas la mienne, sa douleur, sa souffrance, non pas la mienne, son sang, non pas le mien. C'est l'évangile qui apporte la gloire à Dieu et à Dieu seul. Croire en Christ pour sa gloire. Non seulement pour sauver de l'enfer, oui, c'est correct, mais non seulement que vos péchés sont pardonnés, oui, vous avez besoin que vos péchés soient pardonnés, mais avez-vous déjà regardé au-delà, plus haut, à l'extrême, et dire « Sauve-moi, ô Dieu, afin que je puisse commencer à vivre une vie, que je puisse te plaire, que je puisse t'honorer et te glorifier. Avez-vous déjà pensé à cela? Vous voulez glorifier Dieu? Vous ne pouvez glorifier Dieu en tant que pécheur mort. Vous avez besoin d'être sauvé. Vous devez apporter toute votre vie sous la seigneurie et le règne du roi Jésus. La bonne nouvelle est que l'Évangile vous offre maintenant, gratuitement, l'Évangile de la grâce. La plus grande gloire de Dieu est trouvée dans son Évangile, dans sa grâce, dans son Fils. Croyez en lui et vivez pour sa gloire. Il n'y a pas de meilleure façon de vivre. Amen. Père très saint, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse te glorifier, Seigneur. Qu'elle puisse produire des effets dans nos vies, Seigneur. Transformer nos vies pour ta gloire, notre Dieu. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.